Le vote aux élections municipales est-il une démarche purement individuelle ou peut-il être l'expression de tout un quartier? C'est l'objet de cette nouvelle mise en question. Pour ne pas être en retard d'une saison et suite à quelques désillusions sur l'aménagement du quartier, l'association est sans doute une des premières à s'inviter publiquement dans le débat des municipales en proposant aux candidats rennais un projet concret et quelques idées neuves pour les 6 ans à venir. En quelques mots, l'association Alphonse Guérin résume l'esprit de cette démarche adoptée par d'autres associations pour profiter du débat public des municipales pour faire avancer des projets collectifs au niveau d'un quartier. Même démarche du côté du quartier des Longchamps où l'irruption du projet du métro en aérien a entraîné une forte mobilisation des habitants qui, s'ils ne sont pas contre le métro, ont été fortement étonnés de l'absence de concertation. Deux quartiers avec des problèmes différents et des questions similaires, divergence, convergence, nous allons aborder ces questions avec Gérard Souchet qui est le président de l'association de quartier Alphonse Guérin et Vincent Michon donc, qui est le président pour le collectif Sauvons les Longchamps, Vivre au Longchamp. Alors tout d'abord, est-ce que c'est légitime de formuler un projet au niveau d'un quartier et d'interpeller les candidats pour qu'ils intègrent vos demandes dans leur projet, leur programme, Marcel Souchet?
Oh, bah, écoutez, c'est tout à fait légitime, ça fait partie... C'est le rôle de l'association, en fait, c'est pour ça qu'on est ensemble dans le quartier, qu'on se mobilise. On n'est pas juste des consommateurs, on est des citoyens, donc on a aussi notre mot à dire.
Vous n'êtes pas un lobby, quand même? Ah non. Un lobby, ça, en France, ça a une connotation très, très péjorative.
Non, on n'est pas un lobby, mais par contre, on est quand même une force de proposition. On a un groupe, je dirais, de jaillissement d'idées et de projets qui sont quand même construits. C'est pas juste des lubies, des têtes en l'air. Des idées qui viennent comme ça du jour au lendemain, ce sont vraiment des vrais projets qu'on réfléchit. On a un conseil d'administration, on se retrouve à plusieurs, on est quand même 250 dans cette association.
250 personnes dans l'association du quartier d'Alphonse Guérin.
Voilà, 250 qui sont plutôt mobilisés. On va dire. Il y a aussi tous les sympathisants qui sont autour, qui viennent progressivement.
On va voir tout à l'heure justement pourquoi ils sont mobilisés, qu'est-ce qui les mobilise, qu'est-ce qui fait qu'ils s'intéressent donc à la vie du quartier. Alors Vincent Michon, vous avez fait parler de vous il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes un lobby au niveau du quartier de Longchamp? Est-ce que c'est légitime votre démarche là, alors que le vote, on dit bah c'est un vote, c'est une démarche personnelle, non?
C'est très étonnant, mais quand est arrivé le problème du métro, d'ailleurs de manière très rigolote, notre association s'appelle Vivre au Longchamp, ce qui fait Val. Or beaucoup et nous sommes bien plus anciens que cette marque de métro automatique qui circule à Rennes, et il y a une ambiguïté quelquefois sur le nom. Ah, vous êtes le Val? Ah, oui, mais nous ne sommes pas le métro. Eh bien, nous avons relu nos statuts, et nos statuts disent que, clairement, depuis 25 ans, que nous sommes là pour défendre les habitants, en plus d'animer. C'est-à-dire que nous avons bien deux fonctions, qui est une fonction d'animation que nous assumons depuis longtemps, et une fonction d'interlocuteur des élus, qui est inscrite dans nos statuts, et que nous actionnons au fur et à mesure, alors à ce moment-là, non plus des projets de l'association elle-même, mais des besoins du quartier.
Vous êtes un groupe de pression?
Un groupe de pression, si on veut, hein. Je veux dire, quand un problème devient politique, à un moment, ceux qui sont concernés par ce problème, eh bien, doivent donner leur avis, interpeller les élus, en débattre. Moi, j'ai été en débattre avec Monsieur Delaveau sur différentes chaînes. J'ai rédigé avec l'aval de mon conseil d'administration des positions sur les besoins du quartier que nous avons envoyées à tous les candidats. C'est-à-dire, tous les candidats ont reçu un 4 pages clair disant quelle était l'histoire de notre quartier en 10 lignes, et puis après, quels étaient dans les différents thèmes abordés, c'est-à-dire le logement, les jeunes, la circulation, que sais-je encore, eh bien, quels étaient les problèmes rencontrés par ce quartier, et qu'est-ce qui permettait d'espérer ou d'être modifié pour que cette vie soit s'améliore, soit plus chaleureuse, soit plus facile à vivre.
Qu'est-ce que vous ont répondu les candidats aux élections? Qu'est-ce que vous avez répondu?
Les candidats sont dans une phase aiguë. Dans cette période, c'est-à-dire qu'ils essayent de rédiger leur projet politique en ramassant des morceaux un peu partout. Alors, on retrouve des phrases des uns, des phrases des autres, en particulier ce que nous avions écrit sur la protection écologique de notre quartier. Nous le retrouvons dans le texte à peu près entièrement de la liste verte, par exemple.
C'est le succès pour vous, là. Vous êtes content, là.
Ce que nous avons obtenu aussi sur le métro, à savoir une remise en cause de l'insertion, c'est-à-dire de la manière dont on casse ou pas certaines parties du quartier, eh bien nous le retrouvons alors sous différentes formes, dans la liste de gauche, dans la liste du MoDem et dans la liste de droite, quoi. En voilà. Disant, on remet en cause, on va réfléchir, et c'est ce que d'abord nous voulons, c'est ça le dialogue.
Voilà, donc c'est finalement c'est relativement fécond. Alors, Gérard Souchet, est-ce qu'il est difficile ou facile de se faire entendre en dehors des périodes électorales? Parce que pendant la période électorale, c'est peut-être plus propice. On voit que les candidats là ont repris un certain nombre d'arguments de l'association des Longchamps en dehors des périodes.
Alors, c'est vrai qu'en période électorale, c'est assez marrant, on a la même remarque d'un autre côté. On se rend compte que les bonnes idées se propagent à une vitesse grand V, en fait, manifestement.
Vous allez réclamer des droits d'auteur?
Écoutez, je crois qu'on va peut-être faire un collectif d'associations de quartier de Rennes.
On ne demande pas forcément des droits d'auteur, on demande simplement que ça soit pris en compte.
Ça soit mis en place surtout. Mais sinon, en dehors donc des périodes électorales, effectivement, on travaille, on a un élu de quartier, comme tous les quartiers. Et c'est vrai que là, par contre, on sent que le roi est plus ou moins attentive. Ça dépend un petit peu des élus de quartier, leur motivation pour travailler dans le quartier. S'ils sont juste élus dans un quartier ou si ce sont des élus de quartier, ce qui sont deux notions complètement différentes.
Alors, précisez quand même la différence pour les...
Écoutez, l'élu de quartier travaille pour le quartier, il a un projet de quartier, et l'élu qui se trouve dans un quartier, lui a un projet peut-être plus pour sa carrière que pour le quartier.
Ça arrive ?
Oui, ça arrive, on en connaît tous autour de nous, il n'y a pas besoin de chercher bien bien loin pour s'en rendre compte.
Alors Vincent Michon, est-ce que vous observez une typologie? Est-ce que vous faites une typologie aussi des élus? Est-ce qu'il y a deux types d'élus ou trois types d'élus?
Oui, il y en a plusieurs types. Moi je ferai une typologie sur le pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire que quand ils sont élus, on leur distribue des rôles dans les municipalités. Les premiers, en quelque sorte, sont nommés à la métropole, où le pouvoir est en train de glisser depuis la ville vers l'hyperville. Et les attributions qu'on voyait traditionnellement chez nous, elles ont glissé là-haut. Et on ne peut pas discuter d'un trajet de bus sans passer par le vice-président de transport de la métropole. Après ça, il y a les élus donc, qui, eux, n'y sont pas allés. Et puis, à l'intérieur de la ville, il y a des attributions thématiques qui vont, en fonction du projet qu'on a, être des interlocuteurs plus utiles. C'est-à-dire que si on a un projet culturel... ou si on a un projet d'animation, il est quelquefois plus utile de passer par celui dont c'est la spécialité à la ville que, de jumelage international, passer par l'élu chargé des relations internationales, que de passer par notre élu de quartier. Donc il faut choisir la spécialité, et ça c'est un problème de compréhension pour les gens. C'est beaucoup plus difficile chez un membre de l'association qui se dit « je vais avoir un interlocuteur unique, c'est l'élu ». Dit de quartier, le responsable du quartier numéro, je ne sais pas combien, que d'aller chercher vraiment celui qui a la tâche, et puis éventuellement de fouiller dans les compétences entre la métropole et la ville, et ça c'est plus dur.
Alors pendant la période électorale, donc, vous faites des propositions, alors c'est sans doute plus fécond, une période plus féconde qu'en dehors, parce qu'en dehors il y a quand même une structure qui a été mise en place à Rennes, dont la municipalité sortante est relativement fière, ce sont les conseils de quartier. Gérard Souchet, ça fonctionne bien du côté d'Alphonse Guérin?
Ah, les conseils de quartier, ça c'est un vaste débat. Il y a effectivement, comme vous dites, des gens qui en sont très contents, qui manifestement n'y mettent pas beaucoup les pieds, je pense, pour en être aussi contents. On se rend compte que les conseils de quartier ont des fonctionnements qui rappellent des cercles de qualité qui étaient créés dans certaines entreprises qui ont fait, non pas pour but de développer l'information, de faire avancer le schmilblick, mais plutôt de contrôler cette information, d'où qu'elle vienne, pour mieux la rediffuser ou non d'ailleurs.
Contrôler l'information, mais comment contrôler l'information?
Eh bien par le biais, donc en expliquant aux habitants du quartier qu'ils ont une marge de manœuvre en fait pour l'évolution de leur quartier, ça permet d'avoir une température et d'avoir les annonces, je dirais, de première main. Et donc cette annonce, cette information, en fait on la redistribue ou pas. Ça c'est une première chose. Une seconde chose également, c'est qu'on se rend compte que les conseils du quartier sont fréquentés par un nombre très très limité d'habitants de chaque quartier. Et ce sont des habitants qui...
Ils sont désignés comment, rappelez-nous?
Alors, ils sont désignés comment? Il y a une partie de volontaires, voilà.
C'est-à-dire qu'on fait appel comme ça à des gens? Voulez-vous
voilà,
participer
oui.
au conseil
Alors
de quartier?
Alors ça, c'est assez marrant, parce que ça reste assez flou, en fait. Quand vous assistez à un conseil de quartier, vous avez des responsables d'associations qui sont là, il y a des habitants du quartier, je sais pas comment, quelle est leur légitimité, à part le fait d'être habitant du quartier. Et on se retrouve un petit peu autour d'une table, donc avec des préoccupations qui sont pas forcément les mêmes, et avec une distribution des rôles qui n'est pas forcément celle qu'on attendrait.
Vincent Michon, est-ce que vous voyez les conseils du quartier autrement? Est-ce que pour vous c'est une réussite? C'est un lieu où on peut se faire entendre, où vous pouvez développer vos projets?
Je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour se faire entendre. Quand on est une association de quartier vivante, comme Vivre au Longchamp, nous on est installés, on est nombreux, on a des activités qui sont connues, subventionnées d'ailleurs par la ville, assez régulièrement, et ça je le regrette pas. Je veux dire que ce soit notre halte-garderie parentale, Bébé Bulle, qui est subventionnée à la fois par la CAF et par la ville, que ce soit l'aide aux devoirs, etc., où on a aussi des petites aides. Il s'agit simplement souvent de payer un colloque à des bénévoles. Hein. Ça, c'est important. Mais l'association de quartier, ce qu'on appelle le conseil de quartier, n'apporte rien. Parce que le conseil de quartier, il est défini comme un numéro. Il n'a pas de nom. Un numéro, c'est pas un nom.
Et quand vous dites un numéro, ça veut dire quoi?
Le quartier 6, le quartier 5, le quartier 4,
voilà, etc. Il y a des grands quartiers qu'on voit sur les cartes.
Et ils portent des noms à rallonge, c'est-à-dire que ça va être, par exemple, le nôtre, il s'appelle Jeanne d'Arc, Longchamp, Plaine de Beau. Hein. Et quand là-dedans, vous avez 25 000 étudiants, hein, qui ne participent pas à la vie de quartier et qu'on considère comme faisant partie du quartier, que vous avez la Plaine de Beau qui est à urbaniser, donc on va discuter de l'urbanisation de la Plaine de Beau, qui pour moi sera toujours de l'autre côté de la Vilaine et personne n'ira, je dis un quartier ça doit être une unité de vie et pas une unité administrative. J'imagine que peut-être qu'un élu a besoin, lui, de ne pas avoir trop de surface à couvrir. Mais pour discuter, il faut être avec des gens qui ont des préoccupations communes.
Mais ça manque. Il n'y a pas d'identité. Enfin, le quartier, c'est un gros problème.
Pour moi, la mesure d'un quartier, c'est la distance parcourue à pied par les gens qui y habitent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais comme course à pied? Qui je vais voir à pied, etc. Un quartier où tout le monde prend sa voiture n'existe pas. C'est-à-dire que pour moi, un quartier où jamais personne ne va à pied quelque part, ça n'existe pas. Ça n'est pas un quartier, c'est un dortoir, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas un quartier.
Alors, votre définition du quartier, c'est un peu celle qu'on donnait du département à la Révolution, c'est-à-dire une journée à cheval pour le traverser?
Oui, mais parce que ça donne des unités de vie. Mmh. Dans les Longchamps, c'est assez bien réussi. Il y a des circulations à pied autour de l'étang qui permettent d'aller à l'école avec les enfants. Il y a des circulations pour la circulation intérieure au quartier. Normalement, on dit qu'une circulation de desserte du quartier n'est pas une circulation de transit. Donc, ce qui est à l'intérieur, en quelque sorte, de cette circulation de transit, la route de Fougères pour nous et l'avenue des Buttes de Couëm, et ça fait un quartier où on va trouver école, commerce et éventuellement animation culturelle, et c'est ça qui manque le plus, je dirais. On a le cercle Paul Bert, mais c'est insuffisant. La MJC est trop loin, elle ne fait pas partie du quartier. La MJC,
on a le même souci.
Voilà. Donc Alphonse Guérin, vous avez un problème d'identité avec votre quartier, j'ai l'impression que...
Non, on n'a pas de problème d'identité. En fait, le quartier Alphonse Guérin est limité au sud par la Vilaine et au nord par l'avenue Aristide Briand. Donc clairement, c'est très très bien localisé géographiquement, et ce qui est très très amusant, c'est que les gens s'y sentent très bien dans ce quartier. Par contre, c'est vrai qu'on est rattaché au quartier 2, qui est une espèce de globi-boulia avec... On va jusqu'au Tabor, enfin
jusqu'au Tabor.
Des gens qu'on ne voit jamais, et avec qui on ne partage rien. On peut d'ailleurs, c'est presque normal parce qu'ils ont tout un tas de rues à traverser pour venir nous rejoindre. Donc c'est vrai que l'identité du quartier est très très forte, mais elle est noyée dans cette espèce de masse de quartier administratif qui perd un peu du charme. Mais c'est peut-être aussi un choix. Hein,
alors justement, on va voir à travers vos projets comment vous essayez de recréer de l'identité et de l'unité à ce quartier. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, Sacha Distel? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux au Longchamp et dans le quartier Alphonse Guérin avec Gérard Souchet et Vincent Michon, donc représentant ces deux quartiers à travers les associations qui y militent. Alors, une maison de quartier Alphonse Guérin, c'est une grosse revendication pour créer de l'unité, une place du village, etc. Et la question du métro, alors, la maison de quartier, pourquoi vous y tenez autant à cette maison de quartier Alphonse Guérin?
Eh bien, parce qu'on n'a pas de lieu où se retrouver chez soi dans notre quartier. Il y a effectivement un équipement de quartier, l'espèce de dérive qui est donc dédié entièrement au basket, ce qui est très bien, mais quand on veut se retrouver, quand on veut que les ados se retrouvent entre eux, que les enfants se retrouvent, ceux qui ne sont pas basketteurs, j'entends, hein, il n'y a rien, et surtout on se rend compte qu'une maison de quartier, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen de rassembler les gens. C'est aussi un équipement qui permet d'avancer dans les projets et de créer de nouveaux projets.
Mmh. Un peu, puis c'est peut-être symbolique aussi comme une mairie ou une église dans un village.
Alors effectivement, c'est vrai qu'on a donc déjà la placette Roubidou.
La placette Roubidou,
oui, oui. C'est un lieu où tout le monde se retrouve dès qu'on a, je pense, au...
Vous voulez dire que c'est très convivial, c'est pas...
Ah, mais oui, oui, à 4h30, vous avez tous les enfants qui sortent de l'école avec leur maman qui prend leur goûter et qui joue sur cette petite placette. Dès qu'on fait une animation de quartier... je pense au championnat du monde de toupie qui a lieu donc, le 30 mars prochain, ça se passe sur la placette, évidemment, donc de 15h à 18h. C'est un lieu en fait, où tout le monde se retrouve. Et la maison de quartier, c'est pour nous un moyen d'avoir d'avoir plus de moyens justement pour pouvoir travailler pour ce fameux lien social dont on nous rabat les oreilles.
Alors, dans le quartier des Longchamps, là, par contre, vous avez fait parler de vous de manière vigoureuse au mois de décembre, Vincent Michon. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Enfin, le métro est supposé arriver dans votre quartier à l'horizon 2018, peut-être 2020 quand même, hein, ou 22. Mais pourquoi vous voulez pas du métro? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes contre le métro?
Alors, on est pour le métro. D'abord, il n'est pas arrivé d'un seul coup. On a effectivement eu une réunion dans le cadre de ce qu'on appelle les conseils de quartier.
Donc il y a eu de la concertation.
Au mois de février, laissez-moi finir, je vais vous dire, et on nous a dit, vous savez, on vous prévient longtemps à l'avance, mais il n'y a rien d'urgent, ne vous pressez pas, hein, les tracés, n'en parlons pas, mais on vous les montre quand même, donc on a simplement comme projet de retenir que le métro passera dans votre quartier et vous déversera en ville après, comme vous le voudrez. Parce que effectivement, la question c'est comment va-t-on de la placette du village à la placette de la ville, à la place de la ville, c'est-à-dire au centre-ville, c'est ça le cœur de la question. On a plusieurs vies quand on est un individu, on a une vie très locale et puis on a une vie de ville et puis après on a une vie extra-ville parce qu'on a de la famille ailleurs, on a des amis ailleurs et qu'on va à Nantes, à Lorient ou ailleurs ou à Paris. Donc on a à la fois besoin du TGV, du métro et de ses pieds. Voilà. Donc, et de sa voiture éventuellement, mais ça c'est pas forcément le plus utile. Hein, du moins c'est ce que j'aimerais que ce soit le moins utile. Alors, on nous a un jour vu débouler un projet où les tracés ont été en quelque sorte publiés par Ouest France et on nous a dit ils sont disponibles sur Arène Métropole. Alors un certain nombre d'entre nous se sont inquiétés des tracés qui étaient proposés pour notre quartier et ils ont prévenu les autres. On a monté un blog qui s'appelle Longchamp à blogspot.net et qui explique dans le détail.
Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu la moindre concertation, la moindre présentation d'un avant-tracé, ne serait-ce que dans le conseil de quartier ou dans des réunions de concertation?
Il y en a eu une, je vous dis, en février.
En février.
En février, et on, nous 2007, a surtout 2007, dit, on nous a surtout dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour dans longtemps, tout n'est pas décidé, ne vous inquiétez surtout pas. C'est le problème des élus, c'est-à-dire que d'un côté, ils vous disent, il est trop tôt pour s'inquiéter, et quand c'est décidé, ils vous disent il est trop tard pour modifier. Hein? Donc on s'est dit, entre les deux, à un moment, il faut agir. Alors on a découvert, bien sûr, donc au mois de début novembre, c'était je crois tout début novembre ou fin octobre, on a découvert que le 20 décembre, il y avait un vote de Rennes Métropole qui allait choisir le tracé. Voilà. Et on a potassé, on est allé voir les dossiers, parce qu'il faut se prendre par la main. Non seulement on a été étudier le dossier, c'est un document de 150 pages, en format A3, qui est dit très difficile à photocopier, on vous explique que c'est cher à photocopier, qu'on peut pas vous donner un exemplaire, etc.
Ah oui, même pour l'association de quartier qui quand même regroupe beaucoup de gens, il n'était pas possible d'avoir un exemplaire.
Alors c'est assez étonnant, un individu a le droit de photocopier une ou deux pages, comme ça, alors chacun peut aller, puis il a fallu attendre en fait le mois de janvier cette année pour que l'association, après toutes les actions que nous avions menées, a eu trois exemplaires de ce document dit d'aide à la décision, donc décision qui a été prise le 20 décembre. Heureusement, on n'a pas attendu le 20 décembre. Il y avait une réunion publique de présentation par Monsieur Delaveau du projet pour la seule réunion publique qui a suivi cette présentation au journal, qui se trouvait donc entre la présentation aux élus de la métropole et le vote par Rennes Métropole, et elle avait lieu le 7 décembre. Alors nous sommes mobilisés, nous avons invité tout le quartier à venir le 5 décembre dans notre placette qui s'appelle l'équipement public intégré, l'EPI des Longchamps. Et nous avons réuni 500 personnes.
500 personnes.
Et comme nous avions potassé le dossier, c'est nous qui avons fait l'exposé. On a dit aux gens, voilà ce que la métropole vous prépare. Hein? Et nous avons eu des exposés techniques et des exposés explicatifs. C'est nous qui avons fait l'explication aux gens. Si bien que quand M. Delavaux a fait sa présentation le 7 décembre, eh bien, les gens dans la salle, ils savaient de quoi on parlait. Ils n'avaient pas besoin d'explication de M. Delavaux. Et ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas. Ils savaient qu'ils voulaient le métro. Et notre slogan était « Oui au tunnelier ». C'est-à-dire qu'on veut bien du métro, mais on n'en veut pas bien, d'ailleurs on le veut, tout court, mais on ne veut pas qu'il détruise notre quartier. Et sur tous les plans, que ce soit humain, écologique, et puis que ça nous desserve correctement.
Alors on va revenir sur le métro, mais du côté du quartier Alphonse Guérin, comment vous avez perçu cette démarche-là? Certains se sont dit... Oh, ce sont des gens qui vivent en pavillon, c'est des petits bourgeois, qui veulent pas qu'on défigure leur étang avec un métro en aérien. Comment vous avez perçu, vous, d'Alphonse Guérin, cette démarche?
Ce qui est très amusant, c'est quand on s'occupe d'associations, qu'on regarde un petit peu à droite à gauche ce qui se passe à Rennes, dans d'autres quartiers, là on a les Longchamp, mais on est aussi à Alma, on a aussi plein d'autres quartiers sur Rennes, on se rend compte qu'on est confronté aux mêmes soucis. Comme disait monsieur, il y a le temps de l'élu qui explique avant c'est trop tôt, mais après c'est trop tard. Et comme il faut bien le comprendre, c'est aux habitants, par le biais des associations de quartier notamment, parce qu'ensemble on est plus fort, à plusieurs on est quand même beaucoup plus fort, je disais, c'est à nous de nous prendre en main, d'aller éplucher les dossiers effectivement, et de justifier, de motiver et d'expliquer aux habitants dans un premier temps, mais aussi auprès de l'élu, parce que l'élu a peut-être des compétences dans un certain domaine, mais ils connaissent pas forcément tous les dossiers. Je pense au PLU, par exemple, c'est pas forcément des compétences techniques qu'ont tous les élus. Donc si on ne prend pas, en tant qu'association de quartier, on ne prend pas en main un dossier, c'est aussi courir à l'échec de nos propositions.
Alors on parle de déplacement, là, vous réclamez une zone 30. Alors dans beaucoup de quartiers, les gens réclament des zones 30. On a l'impression que c'est parfois... voilà, on va avoir notre zone 30, comme ça on sera content, on a montré qu'on a réussi à faire pression sur les élus.
Non, c'est pas du tout ça. Justement, c'est pour nous, tous les projets qu'on monte, ce sont pas des buts en soi, mais des moyens de vivre dans le quartier. C'est ça qu'il faut bien expliquer.
Donc
c'est...
pas d'abus de zone 30, ça l'est vraiment justifié?
Oui, bah, elle est justifiée. Vous avez une école, par exemple, chose toute bête, dans notre quartier, il n'y a pas de panneau qui annonce l'école. Pas de panneau routier, par exemple, donc ça fait un petit moment qu'on en parle. Ah bon, en conseil de quartier, l'élu, patati, patata. Bon, et le panneau, il n'y a toujours pas de panneau.
Oui, moi, pour moi, c'est typiquement une décision qui doit pouvoir être prise à un niveau très bas. Voilà, ça. Voilà. Dire qu'il manque un panneau école, mais c'est simple, ça ne coûte rien, ça dérange personne. Quand je dis ça coûte rien, ça doit coûter quelques milliers d'euros au maximum de faire le travail et de l'installer.
Alors justement, on va revenir. Mais ça coûte rien, puisque vous parlez de coûts. Là, vous refusez donc le métro en aérien, qui est la formule la moins chère en métro. Vous réclamez un tunnel. Le tunnel, c'est... le métro, il faut savoir que c'est grosso modo 100 millions du kilomètre, 100 millions d'euros, c'est-à-dire le prix des champs libres du kilomètre. Alors si on fait un tunnel, ça augmente considérablement le coût pour sauvegarder la...
Moi, je vais vous répondre de manière très simple. Les habitants des Longchamps sont comme tous les autres habitants de Rennes. Ils payent la première ligne depuis 10 ans. Voilà. Donc ils disent, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas servi maintenant comme les autres. Hein, et les autres, à ma connaissance, hein, à part pour des raisons d'image où on a laissé 500 mètres de métro aérien à la fin pour faire plaisir à Matra, hein, et à Siemens, donc pour que ce soit beau, eh bien, au bout du compte, la volonté des gens transportés, c'est que le métro soit juste en dessous, c'est pas qu'il soit juste au-dessus. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'être traité comme les autres. C'est tout. Hein. Donc, faut pas nous dire, on va faire des économies sur vous, alors qu'on a payé notre éco comme les autres, depuis 10 ans.
Voilà, donc le débat se poursuivra dans le quartier. Alors, Gérard Souchet, si vous voulez bien conclure donc, par rapport à votre quartier.
Si je veux bien conclure, bien, écoutez, une maison de quartier, c'est quand même un moyen de retrouver les habitants pour vivre ensemble, facilement, et, comme disent nos élus, créer du lien social.
Alors, finalement, cette contestation du métro a créé du lien parce que ça a mobilisé les gens. Vous, à travers un projet positif, donc on veut une maison de quartier, ça crée aussi du lien.
Exactement, comme on a créé du lien en créant le marché.
Ah ben, comme on fait une braderie, comme on fait une course à pied, comme
donc,
on fait
dans un combat ou dans un combat contre quelque chose ou dans un combat pour quelque chose, ça crée du lien. Donc c'est la leçon qu'on pourra peut-être retenir de cette petite demi-heure passée ensemble. Gérard Souchet, je rappelle que vous êtes le président de l'association du quartier des Alphonse Guérin. Et Vincent Michelon, donc pour le collectif Sauvons les Longchamps et Vivre aux Longchamps. Merci.